qu'est-ce que ça veut dire tendre l'autre joue, parce que c'est vrai que pour chacun d'entre nous, on peut avoir un certain nombre d'interrogations, mais est-ce qu'au fond le Seigneur est bien réaliste? Est-ce qu'il ne nous demande pas d'être un petit peu maso quelque part? Est-ce que tendre l'autre joue, c'est vrai que pour chacun d'entre nous, c'est aussi une interrogation. Je vous propose, pour ceux qui ont encore leur Bible, de vous transposer, de vous mettre à Matthieu 5, 39. Ceux qui ont un peu leur Bible, Matthieu 5, 39. Et peut-être appeler ceux qui sont dehors, qui puissent rentrer aussi. La jeune Florence Nisery, ainsi que... Ah ben, possible, d'accord. Alors, chacun, ceux qui ont des Bibles, vous avez Matthieu 5, 39, c'est bon? Bon. On va dire vous l'avez. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la joue gauche. L'autre joue. Présente-lui aussi l'autre joue. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette parole? Premièrement, il y a une mauvaise compréhension de la parole, qui est un sens très littéral, c'est-à-dire que si on vous tape sur la joue droite, vous faites comme ça, et vous dites, tapez-moi là. C'est pas ça. C'est pas la bonne interprétation. Hein. On est en Matthieu 5, 39. Donc, qu'est-ce que... Et de fait, quand vous vous rappelez Jésus en sa passion, Jésus n'a pas appliqué ce qu'il a dit, puisqu'il a été frappé par le grand prêtre en Matthieu 26, 67. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Il n'a pas fait comme ça. Ou comme ça. Vas-y, fais-moi le mal. Donc c'est intéressant de nous-mêmes de dire que le Seigneur lui-même ne donne pas une consigne technique, comme vient souvent, hein, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le, si ta main t'entraîne au péché, arrache-la. Bon, il faut comprendre le sens, il ne s'agit pas de s'amputer, ça c'est évident. Donc on peut commencer d'abord par souligner et de voir que si quelqu'un te frappe sur la joue droite et qu'il est en face de toi, toujours les Juifs voient la question concrète. Quelqu'un en face de toi pour frapper sur la joue droite, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Je suis en face de moi. Si je fais comme ça, non mais, c'est la joue gauche. Donc c'est un revers. C'est comme au tennis, c'est un revers de la main. Mais c'est un revers, bon, donc c'est un revers, et pour taper la joue droite, ce qui n'est pas si naturel que ça. Non mais, c'est vrai, parce qu'on veut mettre une claque à quelqu'un, on prend comme ça, et paf, allez, prends ça, et c'est la joue gauche. Pourquoi tu frappes la joue droite? Et quand Jésus... Non, mais Jésus n'était pas gaucher, sauf à... Bon, il n'y a rien n'est dit là-dessus. Mais la plupart des personnes sont droitières, bon, il peut être gaucher, on sait. Mais c'est intéressant que, au fond, que... Il y a un petit détail qui mérite notre attention, au fond. Et souvent, et c'est là où on a perdu la culture juive et la culture hébraïque du très concret. Au fond, la personne qui a été frappée sur la joue droite, eh bien, c'est un acte plus important, plus condamnable aux yeux de la loi de Moïse que frapper comme ça un coup droit sur la joue gauche. Hein, puisque, voyons la signification de tout cela, il faut comprendre que frapper quelqu'un du revers de la main constituait une très grande insulte. C'est tout comme si on l'infligeait une avanie. Hein, la loi juive prescrit une peine de 200 shuzim pour la personne qui frappe son prochain avec la paume de la main, donc la joue gauche, la plupart sont droitiers. Cette même loi dit aussi que si vous agressez quelqu'un en le frappant du revers de la main, votre amant est de 400 shuzim. Donc, quelque part, il y a une offense qui est bien plus grande si on frappe de la joue droite, parce que c'est pas un geste qui nous est naturel. Ça demande, d'une manière ou d'une autre, plus de détermination, quoi. C'est, plus au fond un côté un peu plus vicieux, quoi, un peu plus voilà, tu frappes sur la joue droite, c'est pas seulement la passion qui va motiver frapper, donner une gifle sur la joue droite, c'est déjà un calcul, c'est une personne qui a déjà calculé, donc il y a une certaine malice en elle-même, hein. Et ces chiffres montrent que la gravité de l'offense dépendait de la façon dont on frappait. La loi juive, et je m'inspire d'un... J'ai regardé un petit peu sur Internet, entretien, au pluriel, chrétien.com, je pense que c'est un site protestant, mais qui fait une très très bonne analyse de la question, et je veux dire, j'ai beaucoup appris en le lisant. Et donc, gifler quelqu'un en étant... la juge considérait que l'action de gifler était une agression qui mérite une sanction monétaire. On devait payer pour une amende, pour humiliation qu'on a infligée à quelqu'un. Si vous avez frappé avec le revers de votre main, votre amende sera deux fois plus grande, car on considérait cette insulte comme étant plus grave que les autres. Face à ça, donc c'est assez intéressant, face à ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la justice punitive. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est un principe universel de justice. Hein, c'est dans la loi de Moïse, dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Dans la toute société, on respecte au fond ses membres et la justice doit être présente. Au fond, on rend à l'autre ce qu'il nous a donné. Ce qui est déjà un progrès par rapport à la barbarie. La barbarie, c'est la démesure. C'est le manque de loi. C'est le manque de liberté. La barbarie, c'est les passions à l'état pur. Et c'est en nous, ne l'oublions pas, la barbarie. Nous sommes la civilisation qui s'oppose à la barbarie, c'est un état de droit. Et un état de droit, œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà un progrès par rapport à la démesure. Et donc, la personne est amenée, au fond, à passer de la justice qui repose sur le principe d'équité et exige un juste châtiment. Et la punition doit refléter la gravité du crime. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Donc c'est intéressant de se dire que Jésus nous emmène plus loin. Il emmène plus loin que ça, qui est déjà une justice, qui est déjà un progrès. Juste un petit point. Combien de fois, quand nous avons été agressés, nous sommes dans la démesure. Nous avons été agressés dans notre honneur, nous avons été agressés dans notre propre dignité personnelle, et on voudrait que l'autre meure. On le fait pas, mais en tout cas, s'il pouvait lui arriver un mal grave, on pourrait s'en réjouir. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant de pouvoir dire déjà, est-ce que dans notre cœur, le conflit, les attitudes spirituelles face au conflit, c'est le thème d'aujourd'hui, comment est-ce que le conflit réveille en moi un océan de violence ? Un océan de violence que je n'ai pas forcément bien accueilli, que je n'ai pas... Mais en même temps qu'il faut traverser pour pouvoir être disciple de Jésus. Il ne faut pas en avoir peur de cet océan de violence qui nous habite. En nous, il y a beaucoup de violence. Alors, comme on est des gens bien élevés, bien forcément, on se restreint. Mais, et donc, on essaie de se tempérer. Mais en même temps, je pense que c'est bien de dire, en moi, je vois que je suis capable du pire. Je suis capable du pire parce que précisément, en étant humilié, en étant source, en victime d'injustice, eh bien, je vois que ça réveille dans mon cœur. Et il faut passer par cette colère. Il faut passer par cette violence. Il faut la nommer. J'ai beaucoup de violence contre toi ou contre telle personne. Donc, l'équité demande justement que ce soit... blessure pour blessure, plaie pour pied, plaie, pied pour pied, main pour main, dent pour dent, c'est l'équité. À fond, le principe de la justice qui constitue la base de la loi est appliqué à chaque fois qu'on prononce la sentence dans les cas où il y a verdict de culpabilité. En matière de justice, on ne parle pas de pardon. Ou bien vous êtes coupable, ou bien vous êtes acquitté. Il n'y a pas de place pour demander pardon au juge en lui promettant de ne pas recommencer. Et les pères, les dames qui sont venues hier, Madame Fertelkschul et puis Madame Jodel, je trouve ont bien montré ça. Le jugement, il y a un perdant, il y a un gagnant. La médiation, qui au fond part de principes très chrétiens, c'est gagnant-gagnant. Et je pense que c'est quelque part, à travers cette parole du Christ, qui nous invite à tendre l'autre joue, on en découvre un petit peu les bases, et puis en même temps, voilà, si vous êtes coupable, eh bien vous êtes condamné, si vous n'êtes pas coupable, vous êtes acquitté. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire présenter l'autre joue à l'agresseur ? Au fond, c'est là où il faut un peu aller plus loin dans la réflexion de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire présenter l'autre joue ? Est-ce que c'est simplement demander à l'autre qu'il nous fasse mal, alors qu'il nous a blessés pour une première fois ? On a vu que c'était non. Le Christ lui-même, lors du procès, a été frappé par le grand prêtre ou le serviteur du grand prêtre et n'a pas tendu l'autre joue, a demandé « Pourquoi me frappes-tu ?» Il faut rentrer dans une autre logique. Une autre logique que l'on trouve en Isaïe 55, 8 à 9, hein, chapitre 55, versets 8 à 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur. Autant le ciel et les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies, mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Au fond, il faut rentrer dans une autre logique quand on est agressé ou quand on est aussi agresseur. N'oublions pas que nous pouvons être aussi agresseurs. Il faut rentrer dans une autre logique qui nous invite à aller au-delà de la vengeance. Parce que la difficulté, c'est que on met la justice au service de la vengeance. Alors, c'est un état de droit, du coup. Mais quelque part, on veut que l'autre paye. Il faut qu'il paye. Et c'est justice, œil pour œil. Et le Seigneur nous invite plus loin. À aller plus loin, disant au fond, ne vous conformez pas au monde présent, réformez, transformez votre manière de penser. Et tendre l'autre joue, c'est transformer notre manière de penser. Aller dans une autre pensée, aller dans une autre mentalité. Au fond, c'est une forme de conversion, une autre orientation. Et le Seigneur nous montre en quoi nous avons besoin de changer, en nous donnant ce précepte. Mais il faut regarder, si quelqu'un te frappe, donne-lui l'autre joue, mais c'est aussi en lien avec un autre passage de l'Évangile, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui ton manteau. Si un soldat te force à transporter ses bagages pour une distance d'un mille, ce qui est une pratique reconnue par la loi de Moïse, donne-lui un autre mille. Fais un autre mille supplémentaire avec lui. Si un mendiant te demande quelque chose, donne-lui ce dont il a besoin. Au fond, c'est aller plus loin dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans cette parole-là. Tendre l'autre joue, c'est montrer un autre visage face à l'agression. On montre une partie du visage parce qu'on est frappé sur la joue droite. Tend l'autre joue, c'est-à-dire montre une autre partie de ton visage. Montre une autre partie de ta manière d'être au monde. Montre une autre partie, une autre façon de gérer les conflits. C'est pas dans une attitude, on le comprend bien, masochiste. Bien au contraire. Et donc le Seigneur nous demande à travers cette parole, il vous a été dit, la loi de Moïse, qui était un progrès, mais moi je vous dis, qui va bien au-delà. Le christianisme joue dans une autre cour, complètement une autre cour. On est dans la gratuité, on est dans le pardon. Il accomplit la loi de Moïse, c'est ce que dit Jésus, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et le christianisme, d'une certaine manière, a à voir avec le cœur. Comment, quel visage tu vas avoir face à l'offense que tu vas recevoir? Quelle manière de te positionner? Quelle attitude intérieure tu vas avoir? Au fond, la seule chose que tu peux changer lors d'un conflit, ou la première chose plus exactement que tu peux changer, c'est toi-même. C'est toi-même, parce que justement, cette manière d'être en face de l'autre et de montrer une autre, va le désarmer. Ça va quelque part, qui se positionne, positionne les autres. Ça, écrivez ça en lettres d'or, au-dessous de vos studios de 9 mètres carrés. Donc, qui se positionne, positionne l'autre. Alors, je trouve ça vraiment très, très, très beau, parce que justement, ça demande au fond, au mendiant qui vous sollicite, vous lui donnez ce qui lui manque. Un chrétien qui a vraiment été transformé, renouvelé dans sa manière de penser, son intelligence, pense maintenant que cette manière, de cette manière, il pense d'abord à donner plutôt qu'à s'approprier. Il donne même ce qu'on ne lui a pas demandé, parfois, et donne au-delà de ses moyens. Au fond, c'est ce que dit l'apôtre saint Paul, soyez vainqueur du mal par le bien. C'est pas simple, parce que trop bon, trop, c'est trois petits points. Hein? Donc, et ça, c'est la loi du monde. Mais nous, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Chaque fois que l'on rentre dans une autre logique, la logique de l'évangile, on rentre dans la logique du Seigneur. On fait confiance à la parole du Seigneur. Moi, je vous dis. C'est une parole qui nous est dite. C'est une attitude qui nous est proposée. Faites confiance à cette attitude, même si tout vous dit le contraire. Évidemment, Jésus se situait face à des millénaires de traditions juives. Il vous a été dit. Mais demandons au Seigneur cette confiance et, au fond, à cette force de l'amour et cette manière d'être profondément disposé à accueillir sa grâce pour changer de visage, montrer un autre visage. Montrer une autre joue, ça veut dire montrer une autre manière d'être au monde. Montrer quelque chose qui est différent. Ne répondez pas au mal par le mal. Et ensuite, Jésus qui dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est intéressant ça. Ne pas résister aux méchants. Hier, Madame Donatien nous a dit, voilà, on peut être dans le mode un peu compétitif, voilà, c'est un peu agressif. Tu m'agresses, je t'agresse, et puis c'est une forme d'agressivité mutuelle. Alors, on se dit, est-ce que Jésus, au fond, fait fi de la justice? En disant, ne pas résister aux méchants, parce que, on l'a vu hier, la médiation peut s'appliquer tant que l'ordre public n'est pas troublé. Mais si l'ordre public est troublé, eh bien forcément, là, c'est le juge qui intervient. Parce qu'il est en défense du bien commun, et là, il faut intervenir dans des grades, dans le délit et crimes graves, forcément, il faut intervenir. Sinon, c'est l'équilibre de la société qui est mis en difficulté, en fragilité. Mais en fond, le Seigneur ne rend pas caduque ce principe de justice. Il nous dit simplement d'aller au cœur même de la loi de Moïse. Car voyez-vous, le côté charnel de l'homme a perverti l'application du principe de justice. On a abusé de cette prescription de l'Ancien Testament au point qu'elle servait à justifier la vengeance personnelle. Évidemment, on ne disait pas, qu'on cherche la vengeance, l'esprit de vengeance se déguisait sous le masque d'un semblant de justice. Tu me frappes, je te frappe. Tu me voles, alors je te vole. Le principe de justice a subi une telle perversité qu'on l'utilisait pour faire contre le contraire de ce qu'elle énonce. Ce principe, pensait-on, justifiait que l'on rende le mal pour les mal. Alors Jésus va à l'encontre de cette façon de penser. Ne faites pas cela. Résistez aux méchants. Triompher du mal par le bien. Attention, et ça je trouve, c'est d'instrumentaliser la justice pour assouvir nos passions et notre désir de vengeance. Et on l'a vu dans le témoignage qu'a donné Madame Jodel, hier aussi, de cet homme qui voyait ce garçon un peu comme son fils. Il n'avait pas d'enfant lui-même, et à qui il avait tout transmis, etc. Dans l'heure, il fallait absolument faire une injonction, il fallait absolument la signer en justice. Dans l'heure. En fait, il voulait se venger. Il voulait se venger. Ce que je comprends, archi comprends. Non, parce que moi je suis pareil, je veux dire, un type me fait ça, je veux dire, bon, si je peux le passer à la moulinette, j'en serais ravi. Donc, mais ça c'est en nous, ça c'est le vieil homme. C'est en vous, c'est en moi. Il y a tout un océan de violence, mais moi je vous dis, nous dit Jésus. Et la parole du Christ est performative. Qu'est-ce que ça veut dire performative? C'est-à-dire, elle accomplit ce qu'elle dit. Parce qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est différent d'une parole humaine. Je vous dis, soyez à l'heure à 11h30, par exemple. C'est pas performatif, et tant mieux quelque part. Bon, mais voilà, c'est une parole humaine. Mais quand le Christ, moi je vous dis, faites confiance à la parole. Elle accomplit. Et Dieu dit, et cela est. Il est parole de Dieu. Parole faite chair, et Dieu dit, et cela est. C'est cette même parole que le Père a prononcée au commencement du monde, dans la Genèse. Eh bien oui, nous croyons que le Christ, si nous croyons au Christ, nous croyons en sa parole. Et ça veut dire, et c'est pour ça qu'il y a des paroles qui ne sont pas faciles à croire. Entre autres, cette parole-là. C'est pas facile à croire. Parce qu'on, quelque part, tout nous montre l'inverse. Alors, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Jésus? Est-ce qu'on fait confiance à sa parole? Est-ce qu'on fait confiance que quand on vous demandera votre chemise, eh bien, donnez votre manteau. Quand on vous demandera de faire 1 000, faites 2 000 avec votre adversaire. Rentrez dans une logique de gratuité. De désintéressement. Tout nous montre le contraire. Comme au cœur même de la passion, au seuil de la passion, au seuil de la résurrection, tout nous montrait le contraire, que la parole du Seigneur allait être accomplie. Tout était contraire à ça. Les morts. Seul Marie et Jean au pied de la croix, les autres se sont taillés parce qu'ils avaient peur, parce que voilà. Il faut demander au Seigneur vraiment cette grâce dans la confiance en sa parole. Et là, c'est du concret. Est-ce que je confie que sa parole est vérité? On le chante, ta parole est vérité, ta loi délivrance, etc. On chante des tas de choses sur la parole de Dieu. Est-ce que vraiment là, je fais confiance en la parole du Seigneur? Lui qui sait ce qui habite le cœur de l'homme, comme dit l'Écriture. Lui qui ne regarde pas l'apparence. Il y a comme une forme de seuil à franchir, voyez-vous. Il y a comme une manière d'être au monde face au conflit qui est autre que celle que l'on nous a enseignée et qui habite notre cœur, c'est-à-dire dent pour dent, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Alors oui, montrer un autre visage, c'est très certainement cette grâce de pouvoir triompher du mal par le bien? Et est-ce que c'est pas aussi quelque part renoncer à la vengeance quand on est soi-même victime? Et donc rentrer dans une logique de pardon. Parce que quand on est victime, on a en justice droit à une réparation. En justice. C'est tout à fait juste, c'est clair. C'est la justice qu'on appelle commutative. Il y a deux formes de justice, c'est les Grecs qui ont la justice distributive, la justice commutative. Hein, donc, la justice distributive, c'est-à-dire, ben voilà, je t'ai donné un bien, voilà, je te donne ce micro, ça vaut 50 euros, tu me donnes 50 euros. Voilà, ça c'est la justice. La justice commutative, c'est, au contraire, c'est en fonction de la valeur de la chose. Donc, c'est intéressant de dire, est-ce qu'on n'est pas invité à aller dans une autre forme de justice, de ces deux formes de justice qui au fond, codifient le droit? Est-ce qu'on n'est pas allé, on n'est pas invité à aller au-delà? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'y entrerez pas. C'est clair, vous n'y entrerez pas. Si tu es encore dans l'œil pour œil, blessure pour blessure, voilà, tu n'y entreras pas. Tu n'entreras pas dans ce royaume de l'amour qui est un royaume de gratuité et de pardon. Au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà même de la justice et exprimer l'essence du pardon, c'est-à-dire quelque part de renoncer à la vengeance, même si elle est judiciaire ou judiciairement acceptable ou validée. Je me souviens comme ça d'une personne, des parents d'un frère qui est en communauté, dont la fille avait subi un accident très grave puisqu'une petite camionnette était passée sur elle, et alors qu'elle était en vélo, et l'homme était passablement alcoolisé, et puis pendant un an, deux ans dans les hôpitaux, bassin artificiel, avec ce que ça veut dire aussi pour une femme, de possibles, disons, maternité entre parenthèses, et les parents de ce frère très chrétien, vraiment ses parents... Bon, il y avait eu en justice, vraiment, et qui, lui, il avait été condamné, forcément, à 10h du matin avec 2 grammes d'alcool. C'est difficile de dire qu'il y a eu un déjeuner très arrosé. Donc, du coup, ses parents vont le voir, cet homme-là. Et après que la sentence a tombé, eh bien, elle lui dit, mais écoutez, moi, on vous souhaite du courage pour vous relever aussi. Et lui avait été complètement abasourdi parce qu'il ne sent... On lui aurait fait la même chose. Mais non, c'est le type, on l'enfonce 6 pieds sous terre, si possible, et plus bas encore. Et que des personnes viennent lui dire, écoutez, on vous souhaite du courage, on vous souhaite que vous puissiez vous dépasser cette épreuve. Oui, notre fille... est lourdement peut-être blessée, et peut-être sa possible maternité mise entre parenthèses, en tout cas hypothéquée. Elle s'est mariée depuis, du reste. Et du coup, lui, évidemment, on ne sait pas ensuite comment ça porte dans le cœur des gens, des choses comme ça. Mais quand soi-même, on renonce à ses propres droits, c'est-à-dire qu'on renonce à la vengeance. Ne ripostez pas aux méchants, c'est ce qu'il dit. Ne ripostez pas aux méchants. Pourquoi est-ce qu'on ne riposte pas aux méchants? Parce que on a confiance dans l'amour de Dieu qui est vainqueur du péché et de la mort et qui accomplira toute justice. On s'en remet à lui, on s'abandonne. En ta main sûre et tranquille, je repose. Eh bien, je crois que le Seigneur nous demande, comme chrétiens, cette attitude. Il nous demande comme chrétiens parce que C'est vrai que c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel. C'est quelque chose qui demande un changement de cœur profond, qui demande un chemin spirituel. Et très clairement, s'il n'y a pas de chemin de foi, c'est impossible. C'est pas avec nos petits points, notre petite générosité qui s'évanouit dès qu'on nous marche sur les pieds, hein, et dès qu'on on est dans la queue et quelqu'un passe devant nous, on voit bien où est-ce qu'est notre générosité. C'est au-delà de ça. Ça va au-delà. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu es prêt à aller au-delà? Au-delà de l'œil pour œil, dent pour dent. Au-delà de la justice. Est-ce que tu es prêt à aller au-delà? Au-delà de la vengeance. Est-ce que tu es prêt à aimer tes ennemis? C'est dans le même passage. C'est le passage qu'on a lu hier durant la messe. Et tous, on est confrontés à ça et tous, on se sent très pauvres. Très, très pauvres. Moi, le premier. C'est-à-dire parce que en nous, il y a beaucoup de violence, beaucoup de désir de vengeance et peut-être, vous êtes jeune, vous n'avez pas eu le temps encore d'être blessé, mais je me parlais comme ça avec un père de famille, il me dit, on ferait quelque chose à mes enfants, mais je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Ou plutôt si, je sais. Le pire. Vous voyez, quand le pape Jean-Paul II, après son attentat en 81, a pardonné à son agresseur, alors que la justice italienne l'avait condamné à l'IAXA, qui ensuite a demandé le baptême, il faut le savoir, et il a pardonné. Il a été le voir dans sa prison. Il a été le voir, il a été le rencontrer après plusieurs années, il a été le rencontrer face à face pour parler avec lui. Ben, cet homme-là a changé. Pendant des années, j'ai été aumônier de prison en Amérique latine, et j'ai toujours demandé la grâce qui n'est pas vraiment venue, mais d'une rencontre entre l'agresseur et la victime. Ça n'est pas venu, c'est pas bon. Parce que même des victimes très catholiques, très engagées dans leur foi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est difficile. Il faut rentrer dans un autre régime, il faut rentrer dans une autre logique. Transformer, comme dit saint Paul, votre manière de penser. Ne pensez pas à la manière du monde, pensez à la manière de Dieu. Et croyez que d'une certaine manière, cette manière de Dieu, elle va porter du fruit et du fruit en abondance. C'est une conversion pour nous, pour chacun d'entre nous. Et si nous avons été blessés dans une relation amoureuse, par exemple, dans une relation avec des parents, dans une relation professionnelle, si nous avons été blessés, est-ce que nous croyons profondément que le Seigneur peut, par nous, toucher aussi le cœur de l'autre en lui accordant le pardon? C'est un acte de foi. Parce que l'autre, c'est ça, qu'est-ce que va faire l'autre de ma fragilité? Vous vous rappelez hier avec Jacob, même si vous étiez dans un sommeil, disons, un état second, on va dire ça comme ça, Jacob au gué du Yabok, qui va voir son frère Ésaü, alors qu'il s'est fait passer pour lui, il s'est mis une peau de chevreau, etc., et il a pris les habits d'Ésaü pour recevoir la bénédiction de son père Isaac, et bien il revint vers son frère Ésaü, lui, et il y a un combat spirituel. Croyez pas que ça se passe sans combat spirituel, sans combat intérieur, contre nous-mêmes, contre notre violence, contre cet abîme qui nous abîme, qui nous abîme et nous habite. Il y a un combat intérieur. Il y a un acte de foi en la parole de Jésus. Est-ce que oui ou non tu crois en cette parole de Jésus? Croire en Jésus, c'est croire en sa parole, parce qu'il est la parole. C'est pas simplement... bien sûr, le culte est important, mais... Vraiment, le disciple, c'est celui qui croit en la parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole. Vous vous rappelez la pêche miraculeuse avec Saint-Pierre? Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est une question de confiance en la parole. Et nous-mêmes, Alors que bien souvent, le monde nous dit l'inverse, les actualités nous disent l'inverse, et peut-être notre propre cœur nous dit l'inverse, et que nous souhaitons, au contraire, vengeance, œil pour œil, qu'il paye, il faut qu'il paye. Il faut qu'il souffre. Parce qu'il m'a fait souffrir. Eh bien, nous, nous renonçons à ce droit pour pouvoir donner à l'autre la chance d'une conversion et d'un retour vers Dieu. Et d'un retour vers ce qu'il a de meilleur en lui. Vous comprenez bien qu'une telle attitude, c'est divin. C'est possible, mais c'est en nous le fruit du Saint-Esprit. C'est en nous la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous prions. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, non. Nous, on est comme tout un chacun, avec nos propres difficultés, nos propres violences. Mais nous disons, Seigneur, je ne veux pas que cette violence, cette vengeance, ce désir de faire payer à l'autre, ce désir de voir l'autre souffrir alors qu'il m'a fait souffrir, je ne veux pas que ça ait le dernier mot. C'est ça, le christianisme. Être disciple de Jésus, c'est ça. Et c'est difficile. Parce que, précisément, nous découvrons en nous une loi qui s'oppose à celle de l'esprit. Nous découvrons en nous à la fois un désir d'aimer et à la fois un désir de vengeance. Le combat spirituel, le guet du Yabok. Tu as été fort contre Dieu. C'est-à-dire, il y a un combat parfois contre Dieu lui-même, contre la parole de Dieu. Non, je ne veux pas que c'était ta parole, Seigneur. Parce que la logique du monde, je pense qu'elle est plus forte que ta parole. Ça, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. C'est ça, l'idolâtrie. Et donc, du coup, et l'idolâtrie, elle n'est pas source de vie. Vous savez, les idoles, l'Ancien Testament, et le psaume en parlera remarquablement, les idoles, ils ont des mains et ne touchent pas, et des pieds ne marchent pas, leurs bouches ne peuvent parler, leur nez ne peuvent sentir, leurs oreilles ne peuvent écouter. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. L'idole, elle est mortifère. Et c'est vrai que parfois on préfère les idoles de ce monde, d'or et d'argent, les idoles de la vengeance, et les idoles de l'œil pour l'œil, eh bien, on les préfère à un Dieu de vie. Moi, je veux que tu aies la vie, et la vie en abondance. Je vous ai choisi, nous dit Jésus, pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et avoir la vie, c'est accueillir une autre logique, c'est rentrer dans le pardon. Et là, je vous dis, quelqu'un qui renonce à ses droits alors qu'il a été victime, et qui s'adresse à l'agresseur pour lui témoigner qu'il est aussi une personne, parce que c'est ça l'importance de la rencontre entre l'agresseur et l'agressé, c'est que chacun témoigne à l'autre qu'il est une personne, capable d'aimer. Même le pire des bandits, de celui qui a fait des choses abominables, etc. Nous voulons croire, et nous le savons qu'il est à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous voulons croire qu'il est capable d'aimer. Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de Maïti Gertamer. Maïti Gertamer est une femme maintenant décédée, qui était jeune femme pendant la guerre et qui a fait de la résistance et traversé la Loire qui séparait la zone libre de la zone occupée pour transmettre des messages, transmettre des vivres, etc. Et un jour, elle a été faite prisonnière. Elle était en même temps virtuose de piano. Et en étant faite prisonnière, elle a été confiée à un médecin allemand qui l'a torturée en faisant des expériences sur les nerfs. Et à la suite de ces expériences que vous imaginez, elle a été incapable toute sa vie de rejouer du piano alors qu'elle était virtuose et c'était sa joie et son bonheur. Mais en plus, elle en a eu des souffrances jusqu'à sa mort. Et cet homme, autrichien, médecin, intelligent, a fait tout un cheminement et à un moment donné, alors qu'il était près de la mort, a dit à ses enfants, petits-enfants, il les a convoqués, il a dit « Voilà qui j'ai été, avant d'être votre père et grand-père. » Et il a cherché à retrouver cette femme. Pourquoi ? Bon, voilà, nous y voyons la trace du Saint-Esprit. Cette femme, cette jeune femme, qui avait vos âges, une vingtaine d'années, bien, qu'il avait torturée, dont il avait brisé la vie, pour ainsi dire. Et il a retrouvé. Et puis, il est allé la voir en France, elle habitait la France. Et donc, du coup, et ils ont parlé, elle parlait parfaitement allemand, elle est restée plusieurs années prisonnière, elle parlait parfaitement l'allemand. Et donc, du coup, on voit comment cet homme-là a dit, c'est intéressant ça, de dire, parfois, il y a la question du temps. Il dit, il m'a fallu 40 ans pour comprendre que le nazisme n'était pas la solution. Un médecin. C'est pas un inculte, c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'intelligent. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre que ce n'était pas la solution, que ce n'était pas là le bonheur. Et donc, il va voir cette femme, Maïti, et il lui dit, voilà, il rentre en contact avec elle, etc. Elle-même avait fait son chemin, elle était devenue ce qu'on appelle oblate franciscaine, oblate, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans le monde laïque, mais qui sont en lien avec une communauté religieuse, c'était les franciscains. Elle n'avait pas pu se marier, elle était bien souvent alitée, bien souvent douloureuse, etc. Bon, des suites, des tortures. Et à la fin, il lui dit en l'embrassant, « Pardonnez-moi. » Voilà. Cet homme-là, qui est mort depuis, est rentré par l'amour de cette femme dans une autre logique. Dans une logique du pardon. Il a accueilli le pardon. Il s'est reconnu agresseur et face à... Et c'est là où il nous faut, parce que le résultat, il n'est pas immédiat, voyez-vous. Il est, en particulier dans l'entreprise, on ne voit pas tout de suite le résultat. On pense qu'une autre logique va être beaucoup plus efficace. Mais nous voulons demander au Seigneur cette grâce d'être témoin de lui. De sa parole. C'est ça. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je pardonnerai. Peut-être j'y vois pas clair. Peut-être ça me paraît la solution presque un peu idéaliste, un petit peu. Vous voyez, un peu comme si c'était. Voilà, pas. C'est pas la vraie vie, là. C'est gentil, mais c'est. Vous voyez, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Et c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est rentrer dans un conflit, et un combat ouvert. Et bien sûr, ta parole, Seigneur, je jetterai les filets, je pardonnerai. Parce que le travail, il est d'abord à faire en nous-mêmes, voyez-vous. Il est d'abord en nous-mêmes. Montrer l'autre joue, c'est intéressant. Sinon, vous frappe sur la joue droite. Tendez, montrez l'autre joue. C'est dit de l'agresser, c'est pas dit de l'agresseur. Et l'agresser, en montrant un autre visage, une autre manière d'être, une autre façon d'être à l'injustice, fait changer l'agresseur. C'est ça que c'est montrer l'autre joue. Le travail est d'abord en toi-même. Bien sûr, peut-être. Qu'est-ce qu'on t'a fait avec ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu as fait avec l'injustice dont tu as peut-être été victime? Et qui d'entre nous n'a pas été victime d'injustice, plus ou moins grave, plus ou moins douloureuse? Eh bien, nous croyons que dans cette injustice, il y a un triomphe de l'amour possible. C'est ça être disciple de Jésus. Tendre l'autre joue, c'est ça. On n'est pas dans un côté idéal, un côté un peu bisounours, un petit peu... Non. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Nul homme n'a parlé comme cet homme, dit l'Évangile. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Et pourquoi nous croyons en Jésus ? Pour ça, précisément. Parce que nul homme n'a parlé comme lui. Nul homme n'a rejoint notre désir d'aimer comme lui. Nul homme n'a touché les profondeurs de notre âme comme lui. C'est pour ça qu'on croit en Jésus. Qu'il est le chemin, la vérité, la vie, parce que précisément, on voit en lui quelque chose qui répond à l'intérieur de... Moi, ça m'a toujours surpris, vous voyez, l'appel de Matthieu. Viens, suis-moi. Il dit, mais un type me vient comme ça, débarque, viens, suis-moi, mais je ne le suis pas. Forcément. Il faut être un peu sensé dans la vie. Viens, suis-moi. Eh bien non. Et lui, il laissant tout, hein, on parle de ça des apôtres, laissant leur filet, Pierre, pareil, etc. Ils le suivirent. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont suivi ? Ça, c'est quand même étonnant, ça. Ils étaient installés, c'était des hommes installés. Pierre, c'était un homme déjà... Voilà, il était certainement marié, il était bon. Eh bien, Pierre, il a... Pourquoi ? Parce que la parole du Christ correspond à quelque chose que nous portons. Ça correspond à l'intérieur. Ça fait écho à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas simplement une parole humaine. La parole humaine, moi c'est une parole humaine, bien pauvre. Mais la parole de Jésus, elle correspond. Elle touche en nous quelque chose. Que personne n'avait touché avant. Elle réveille en nous une capacité de vie que personne n'avait réveillée. Vous aussi voulez-vous partir, dit Jésus en chapitre 6 de Saint Jean, alors qu'il manifeste qu'il est le pain de vie. Et moi je suis le pain de vie, celui qui me mange aura... La vie, celui qui boit mon sang, mange ma chair, boit mon sang, c'est anthropophage. Et les premiers chrétiens ont été condamnés pour anthropophagie, donc c'est très clair. Vous aussi voulez me quitter ? Et puis, Pierre qui se lève. On imagine Pierre avec sa grande barbe, etc. À qui rions-nous, Seigneur ? Mais à qui ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Ça, la question. Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Bien des paroles parlent aux jeunes, bien des chemins, des lumières s'adressent à vous. Mais est-ce que c'est des chemins qui vous plénifient ? Est-ce que c'est des chemins qui vous apaise, qui vous donne un bonheur. Pour ça qu'on est disciple de Jésus. Non pas qu'on soit meilleur comme les autres, En nous habite la violence comme tout un chacun. Mais simplement, Jésus nous dit, nous emmène plus loin, sur l'autre rive. Allez sur l'autre rive. N'ayez pas peur de ça, d'aller sur l'autre rive. C'est là où je vous attends. Alors demandons au Seigneur d'être accueillant par rapport à ça. Demandons au Seigneur d'être vraiment cette âme d'écoute.